sur le papier, Carlo Strenger est philosophe, psychanalyste, professeur à l'université de Tel Aviv et publie régulièrement des articles dans la presse, dont Haaretz, The Guardian, Die Welt et le New York Times. Membre aussi du comité d'observation du terrorisme au sein de la Fédération mondiale des scientifiques. Dans la vie, il est d'origine suisse et juive, professeur d'université, psychanalyste, fan de moto, libéral de gauche, marié, aimant les steaks, la musique classique, Paris et bien d'autres choses encore. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente dans son livre, tout en précisant qu'aucune de ses identités ne le définit exclusivement. Après La peur de l'insignifiance, Nous rend fous, paru en 2013, 3 ans plus tard, il s'attaque au politiquement correct dans Le mépris civilisé, avec Allons-nous renoncer à la liberté qui paraît aujourd'hui, toujours chez Belfond. Il s'alerte du manque de responsabilité citoyenne dans nos sociétés occidentales et appelle à une redéfinition de la liberté, non comme un acquis, mais comme une conquête, fruit d'un dur labeur. Bonjour Carlo Strenger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce livre paraîtra dans 3 jours dans toutes les librairies. À vous lire, nous serions un peu, quand même, nos propres ennemis. Ceux qui nous menacent, c'est moins le terrorisme, la crise climatique ou autres ravages que notre propre passivité. Est-ce que nous sommes, pour vous, Carlo Strenger, en train de construire nos propres prisons ?
Absolument. Aussi bien nos propres prisons que possiblement la fin de cette liberté que nous aimons tellement. Et je pense que c'est le résultat d'une période historique absolument incomparable. Il y a 3 générations dont je fais partie, qui ont grandi de façon gâchée. Toutes les questions de sécurité en Europe, on a fait du outsourcing aux États-Unis. Et puis ici, il y avait une croissance économique incomparable à tout ce qui... Il n'y a jamais eu une période historique d'une telle croissance. Et je pense que nous sommes arrivés à un point où nous pensons que ce style de vie, ce niveau de vie, cette liberté... Et je dirais la facilité dans laquelle nous faut jamais nous battre pour cette liberté, que ce soit une donnée de la nature comme la gravitation.
Liberté chèrement acquise et dont on aurait tendance à penser aujourd'hui qu'elle nous est due, que tout nous est dû, parce qu'on a cessé de s'interroger sur la portée du concept de liberté, sur ce qu'est réellement la liberté, Carlo Strenger.
Oh bah oui, vous voyez, c'est un peu cette attitude de consommation. C'est comme si vous achetez une nouvelle voiture, alors vous dites, il y a bien une garantie jusqu'à 4 ans et 250 000 kilomètres. Alors moi, j'ai une garantie que je serai libre et que je serai heureuse. Et si jamais il y a quelque chose qui cloche, que je suis moins heureuse ou moins heureux que je pense que j'en ai le droit, alors il y a quelqu'un ou il y a des gens, ça serait surtout les parents et la société, terme assez vague quand même, la société à laquelle je viens, je leur dis mais vous me devez ça. Cette liberté ce bonheur et l'idée que c'est moi qui est responsable de ma propre vie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vit, on aime, on vote, voire on meurt comme on consomme. Pour vous, Carlo Strenger?
Dans un certain sens, oui. Et malheureusement, si vous regardez aujourd'hui les combats politiques, c'est des combats qui sont menés par des spécialistes de marketing. On fait du marketing des politiciens plus ou moins comme on fait le marketing des voitures ou de chaque autre commodité.
Donc les communicants ont pris le pouvoir sur la politique, les grandes idéologies ont disparu. Mais est-ce la faute des citoyens quand ils sont eux-mêmes soumis à cette nouvelle manière de faire de la politique, un peu creuse, sans idée, comme vous l'évoquez? Qui est responsable de quoi?
Vous voyez, moi je n'aime pas la tendance de chercher qui c'est la faute de qui. Parce que vous savez, si vous connaissez suffisamment de politiciens et vous voyez comme les pressions sous lesquelles ils travaillent. Et qu'est-ce qui se passe quand ils essayent de d'être élus? il y a des pressions systémiques qui sont devenues telles que les politiciens ne sont pas plus libres que nous, les simples citoyens. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le système total qui mettre les mêmes pressions sur les deux côtés. Et puis l'autre tendance de dire « Ah, c'est le néolibéralisme, c'est le capitalisme, c'est les grandes, c'est les bancaires ou qui que ce soit », eh ben vous savez, ces mêmes bancaires, ils sont sous la même pression qu'ils vont perdre leur job s'ils n'amènent pas les résultats. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est un diagnostic de la totalité dans laquelle nous vivons, et pas chercher qui est le ou la le mal impersonné, la force satanique qui est en train de ruiner notre vie.
Alors, sans chercher de responsable, quels sont pour vous aujourd'hui les piliers de l'ordre libéral tel qu'il prévaut, tel qu'il est aujourd'hui quand même dominant encore dans le monde occidental?
Disons comme ça. Je vais d'abord dire quelque chose sur l'ordre libéral dans son mode idéal, comme il a été défini, surtout depuis le XVIIIe siècle, dans l'âge des Lumières. Il est bâti sur l'idée que, premièrement, de la dignité de l'individu, le fait que chacun de nous peut choisir à vivre comme nous voulons, autant que nous, il ne faut pas faire du mal à d'autres. Le fait qu'on ne peut pas nous dire ce qu'il nous faut croire. Le fait que nous pouvons penser librement, exprimer cette pensée librement, et qu'ensemble nous créons une structure d'une société qui préserve cette liberté. Là, cet idéal est basé sur ce que le grand philosophe allemand qui a vécu après aux États-Unis, Léo Strauss, a nommé l'aristocratie de l'esprit. Il ne s'agit pas du tout d'une aristocratie de naissance ou financière. Léo Strauss venait d'une famille très pauvre. Mais l'aristocratie de l'esprit, c'est l'aristocratie de ceux qui se donnent la peine à vraiment penser pour eux-mêmes. Et je pense que, premièrement, nous sommes dans un paradoxe énorme. D'un côté, nous vivons dans une époque où la démocratisation de l'accès à l'information est plus grande que jamais. Croyez que, si nous pensons que chacun qui a un smartphone et une connexion 3G a accès... 3G, pardon. Je vais bégayer de temps à autre.
Non, mon français est
assez rouillé, je regrette.
Essayez de vous épauler, quand faire se peut.
Oui. Accès plus ou moins à toute information que nous voulons. Exactement dans ce point-là, nous voyons une passivité de plus en plus forte, et les citoyens qui veulent avoir des slogans simples. Et alors, comme je dis, c'est pas les politiciens méchants qui leur donnent, mais eux, ils savent. Si je donne un message complexe, vous savez, quand Clinton, quand il essayait dans sa première cadence, alors à chaque question, il avait tout un programme de 10 points. Et puis ses consultateurs lui ont dit, mais mon cher, ce qu'il nous faut, c'est 3 mots, pas 10 points développés. Et puis il a développé les petits slogans qui fonctionnent bien. Entre autres parce que à cause de l'inondation, de la complexité, de l'information, et encore une fois, une situation dans laquelle une grande partie de la population se sent de plus en plus aliénée d'un système qu'ils ne comprennent pas. Et là, je voudrais arriver à mon point central. Vous avez dit avant, et c'est juste, que je ne vois pas le grand danger pour notre liberté dans l'islamisme. Je le vois dans notre société, parce que dans une situation si complexe que ça, c'est le grand moment des populistes, soit de la droite, soit de la gauche. Bien que à ce point-là, en Europe, c'est surtout la droite qui joue le grand rôle. Parce que les populistes, ils donnent exactement les slogans qui sont noir et blanc. Il y a un ennemi, que ce soit l'immigration, les islamistes, les juifs, les américains, les arabes, ou ce que vous voulez, et et puis une prescription complètement simpliste pour résoudre tous les problèmes. Monsieur Trump, on va jeter dehors tous les Mexicains. Bien qu'il n'ait pas la moindre idée comment le faire, et à part le fait que tout ce qu'il a dit était tout simplement un mensonge, l'immigration nette de la Mexique aux États-Unis pendant les années dont il parlait était négative, mais ça donne aux citoyens premièrement la possibilité de la catharsis, de la haine et du dégoût. Et l'impression qu'il y a enfin le grand leader fort qui va délivrer toutes ses promesses.
Alors, dans ce temps de réflexion que vous ouvrez dans cet ouvrage, Carlo Strenger, Allons-nous renoncer à la liberté? On entend bien que plutôt que de céder aux sirènes du populisme, plutôt que de craindre de se replier pour tenter de faire barrage au terrorisme et aux inquiétudes que ça peut susciter en accentuant cet arsenal de sécurité, on devrait plutôt réfléchir, dans un moment comme celui-ci, à défendre nos libertés, en tout cas l'héritage que nous en avons. Et pour illustrer ça, vous avez lu Soumission de Michel Houellebecq, parce que vous avez lu beaucoup de penseurs de tous les coins du globe, mais aussi vu beaucoup de films et lu des romans. Et ce roman de Michel Houellebecq, le dernier paru, est pour vous une illustration de notre erreur d'interprétation sur ce que être libre veut dire. Qu'est-ce que vous y avez lu ou vu ?
Vous voyez, je pense qu'il y a tendance de lire Michel Houellebecq comme un grand cynique qui joue un peu entre la pornographie et le nihilisme. Personnellement, je vois Houellebecq plutôt que comme quelqu'un qui vraiment a l'impression, comme il a dit dans un grand interview avec Die Zeit en Allemagne, que les idéaux de l'âge des Lumières sont morts, tout simplement morts. Et ça a beaucoup à faire avec sa propre biographie. Ses parents sont débarrassés de lui parce qu'ils n'avaient pas envie de de s'occuper de lui. Et je pense certainement que l'image qu'il donne de l'Ouest ou de l'Occident est un peu trop simpliste, mais je pense qu'il vaut bien de l'écouter. Parce que ce qui est pour moi la chose la plus intéressante dans Soumission, c'est pas l'idée de l'islamisation de France, qui est une idée complètement irréaliste. Mais c'est la description très, 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 très intéressante et profonde du désir énorme du protagoniste, ou je dirais anti-protagoniste François, prof à la Sorbonne, prof de littérature française, d'avoir nouveau un sentiment d'une culture profonde et grande. Ce qui, dans son cas, veut aussi dire le désir profond et le besoin peut-être de la croyance catholique. Et nous savons à propos que Houellebecq a dit quelquefois que s'il pouvait être catholique, il le serait. Et ce que je vois ici, c'est un besoin énorme d'un sentiment d'une tradition culturelle profonde, et puis avec le regard sur notre présent, le sentiment que c'est tout devenu deux-dimensionnel, et dans ce sens-là, ne veut pas pouvoir soutenir sa propre base.
Antoine, merci. Une question pour Carlo Strenger.
Il y a la pure question un peu théorique sur tout ce que vous venez de dire. La première étant d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut percevoir cette idée que nous abandonnerions notre liberté ? Parce que bon, peut-être qu'on peut le dire pour les autres, mais personne finalement fondamentalement n'en a cette conscience directe qu'on aurait abandonné notre liberté. On a l'impression qu'on agit, qu'on fait ce qu'on souhaite faire finalement, globalement. Pourquoi dites-vous qu'on abandonne notre liberté volontairement ? Et si oui, est-ce qu'on n'en est pas conscient qu'on le fait ?
Ça dépend un peu de votre concept de liberté. Vous voyez, si vous vous dites que la liberté du choix, c'est si je peux choisir d'aller faire le ski ici ou par là, ou que je peux acheter un iPhone ou le Samsung ou le Sony, alors oui, nous avons beaucoup de liberté. Et nous voyons aujourd'hui le plus grand État du monde, la Chine, a une liberté complètement... plus ou moins complète dans la consomption, autant que vous ne réfléchissez pas trop et certainement n'exprimez pas vos choix. C'est-à-dire, pour moi, en même temps, avant j'ai parlé de la manipulation de nous tous par les slogans qui poussent nos boutons inconscients. Et aujourd'hui, dans la recherche en psychologie, nous avons beaucoup de savoir sur les structures inconscientes qui fonctionnent là. Et on s'y sert très bien, non seulement en politique, mais en généralement dans le marketing. Et dans le sens que vous prenez vraiment charge de votre vie en définissant quelles sont les valeurs qui vous importent vraiment et comment voulez-vous vivre d'après ces valeurs et comment voulez-vous les défendre. Je pense que de ce point de vue-là, eh ben, nous sommes en train de renoncer de plus en plus à nos libertés de fond.
Vous voulez pas montrer du doigt un coupable, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé quand même de système, vous dites des gens qui poussent sur les boutons. Il y a quand même peut-être à l'œuvre une volonté de justement réduire l'autonomie des personnes que vous défendez pour précisément permettre au système de se développer.
Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette... Je vais vous dire pourquoi. C'est la même faute un peu comme celle dont nous avons parlé, que c'est la faute de la société, des parents, qu'on m'a ruiné ma vie. Et maintenant, c'est le système. C'est une personnification du système qui est dangereuse. Parce qu'encore une fois, ça va dire que ce n'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas moi, mais c'est le système, quoi que ce soit. Ok, la définition. Alors, et là, j'ai beaucoup peur de cette tendance.
Donc, nous sommes, vous, moi, nous sommes responsables de cela. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour éventuellement agir?
Écoute, chacun de nous essaie de faire ce qu'il peut. J'ai pas de talent politique. Je suis un télo. Alors. Ce que je vous avais dit, que je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, etc. Mais c'est mon devoir.
Mais justement, vous revenez en ouverture du livre sur une distinction qui est très intéressante. Il faut peut-être se poser la question de la liberté sous cet angle-là pour commencer. Vous distinguez la liberté positive et la liberté négative telle que la définissait Isaiah Berlin, penseur libéral du 20e, qui était auteur de deux concepts de liberté en 58 et de la liberté et ses traîtres. On revient à ceux qui fourvoient peut-être cette idée. C'était un philosophe de l'anti-lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, cette distinction vous semble plus que jamais pertinente dans cette manière qu'il a de reconsidérer cette conception de la liberté aussi, façon Rousseau, façon Saint-Simon ?
Est-ce que vous avez dit que Isaiah Berlin était un philosophe anti-lumière?
Non, sur une des deux conceptions de la liberté, sur la liberté négative et la liberté positive, entre les modernes et les lumières. Oui,
Isaiah Berlin est très proche de mon cœur et m'a vraiment. Je voudrais le défendre aujourd'hui.
Ah non, mais il n'y a pas d'accusation.
Non. C'est pas seulement ça à préciser. Isaiah Berlin n'était pas du tout un philosophe anti-lumière. Il était un philosophe qui voyait les limites des lumières. Et c'est une des limites, c'est là qu'il a, il m'a influencé tellement profondément, c'est exactement la promesse des lumières dans le 18e siècle. Dans le cas d'Holbach, de Condorcet, la maîtrise, etc., qu'il y a des moyens techniques de résoudre tous les problèmes existentiels. Et c'est ça qu'il a dit qui était un des idéaux qui sont absolument impossibles à délivrer et qui alors laissent les gens sans espoir. Et nous savons aujourd'hui très très bien que chaque solution amène d'autres problèmes. Maintenant, ce qu'il s'agit, c'est que d'un côté, Isaiah Berlin a tout à fait raison quand il met quand il dit qu'il ne faut jamais limiter la liberté négative si c'est pas absolument nécessaire. Mais en même temps, un peu autrement que Isaiah Berlin. Je pense qu'une idée positive de la liberté, exactement cette idée de l'autodétermination, l'autonomie. Auto, c'est le moi, le même, le soi, et nomos, c'est la loi. C'est moi qui me donne la loi, mais je me la donne de façon qui a un vrai sens si j'y investis. Alors, vous me demandez quoi faire.
C'est-à-dire que qu'est-ce que je trouve comme loi à partir de moi-même, c'est ça la question.
Écoutez, pour que ça soit pas
sans qu'il y ait de collectivité dedans.
Exact. Je pense que un certain gestus, un individu hyper individualiste est très peu réaliste. C'est pas que oui, vous ou moi, on se lève un jour quand on a 15 ans et nous inventons un nouveau système de valeurs. Et je pense que là exactement, le concept de ce qu'en anglais on nomme liberal education, que j'aime traduire l'éducation pour la liberté, est d'une telle incroyable importance. C'est-à-dire, sans connaître les traditions invraisemblables dans leur grandeur et profondeur, qui ont pensé sur ces questions depuis au moins 2500 ans. Si on les travaille, alors on peut dire, si je fais mon choix, je fais mon choix basé sur, sans être limité par le fait que je suis né dans ce petit village-là ou cette petite ville-là. Je me suis vraiment disputé avec les grandes conceptions. C'est un grand effort. Okay. Et maintenant, nous arrivons à la catastrophe. La conception de l'éducation pour la liberté aujourd'hui, dans un discours qui dit l'éducation, ça se mesure que par l'idée, est-ce que l'étudiant va avoir un meilleur job? Est-ce qu'il va gagner plus de fric? Est-ce que ça est-ce que l'économie va grandir plus vite? Eh ben, certainement, l'éducation pour la liberté, elle n'est pas bien mesurée dans ce point de vue-là. C'est-à-dire, pour que nous soyons capables de faire ça, il faut une éducation profonde, et notre société est de moins en moins capable et a de moins en moins de volonté à faire cet investissement qui est absolument vital, absolument sans cette conception d'éducation.
Mais pour tout le monde, vous voudriez dire pour tout le monde devrait faire cet effort-là.
Absolument, mais vous voyez, beaucoup de ces questions, on peut déjà les enseigner et discuter sur le niveau secondaire de l'école. Il ne faut pas être un doctorant, faire un doctorat d'État pour discuter les questions des systèmes politiques ou quelles sont les idées de fond de Montesquieu. On peut très bien faire ça avec des gamins de 15 ou 16 ans.
Le philosophe, psychanalyste et essayiste Carlo Strenger est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Allons-nous renoncer à la liberté ?» L'ouvrage paraît dans 3 jours chez Belfond.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Quelles sont les causes de cette fatigue? Michael Fossel, qui est philosophe aussi et qui est français, vient de publier au PUF « L'avenir de la liberté, Rousseau, Kant et Hegel ». Écoutez ce qu'il en dit et on écoute votre point de vue à vous, Carlo Strenger, juste après.
Bien évidemment, la liberté d'entreprendre, c'est une liberté d'abord individuelle. Et l'individualisation de la liberté, elle mène aussi à une demande de sécurité individuelle. C'est le mécanisme de l'assurance ou d'autres types de, disons, de management du risque ou de contrôle du risque. Ce qui fait qu'au fond, on a tout de même aussi un effet d'atomisation par la liberté strictement économique. Je dirais, pour résumer un peu de manière forcément schématique, que la liberté des libéraux, c'est la fameuse définition, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc une conception, disons, qui met en son centre l'individu séparé des autres et qui aussi, et c'est aussi un lien avec la sécurité, peut envisager les autres comme une menace pour sa propre liberté. La liberté, alors je sais comment l'appeler, disons l'autonomie, pensée par Rousseau le premier, dirait plutôt la liberté des uns commence là où commence celle des autres. C'est-à-dire que la liberté, en fait, c'est fondamentalement une dimension politique de l'action et qu'on ne peut pas être libre seul dans un monde qui est entouré de servitude ou entouré même de constitué même par des concurrences.
Carlo Strenger, comment répondre à cette inquiétude? Pourquoi ce sentiment de vide persiste?
Premièrement, parce que cette atomisation se passe vraiment. Je pense pas du tout, mais pas du tout, que Rousseau nous donne la réponse. Rousseau, qui pour moi, et pas seulement pour moi, est un des grands fondateurs de la pensée fasciste. Le même Rousseau qui dit qu'à la fin c'est la volonté générale qu'il nous faut accepter, c'est-à-dire que votre volonté, la vôtre ou la mienne, à la fin n'importe pas. Il faut c'est exactement le fond du populisme. Il y a le grand leader qui exprime
ce que l'on doit penser, finalement.
La volonté générale.
Exactement. Alors si déjà j'aurais dit comme ça, c'est vrai, toute cette conception de l'individu atomique est complètement fausse. Et malheureusement, il a pas continué, ou peut-être j'ai pas entendu à parler à Hegel, de Hegel, qui parle exactement du fait que l'individu adulte et qui est vraiment libre et vit dans un système complexe de reconnaissance mutuelle entre des sujets qui sont réglés par des normes culturelles, éthiques et intellectuelles. Et c'est de ça dont je parlais avant. C'est-à-dire, je pense que la réponse n'est certainement pas à nous imposer une volonté générale, parce que là, de Monsieur Poutine jusqu'à Monsieur Orban, nous en voyons suffisamment de gentils dictateurs qui font exactement ça. Non, ce qu'il nous faut, c'est de réaliser que notre individualité est toujours structurée par un espace culturel qu'il nous faut internaliser avant de nous disputer avec lui et d'en faire des choix.
Est-ce que vous pensez, c'est un peu la question qu'on a ouvert dans la première partie de l'émission avec le réalisateur Xavier Giannoli, que nos sociétés sont aussi en panne de doute, qu'elles ne doutent plus suffisamment? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, d'après vous aujourd'hui, Carlo Strenger, un retour des croyances religieuses et des idéologies politiques qui seraient porteuses d'une véritable réflexion sur le je et sur le nous?
Mais ce retour, on le voit quoi que ce soit, mais je pense pas du tout que ce soit nécessairement une réflexion. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de systèmes de pensée, des systèmes des structures de sens ou de signifiance qui veulent une auto-immunisation complète. C'est le cas dans les fondamentalismes religieux, c'est le cas dans, si vous regardez Monsieur Orban, ce qui se passe en Pologne, certainement ce qui se passe en Russie et en Chine, où on dit nous ne faisons plus du tout de réflexion. Et de ce point de vue-là, je dois dire que je pense qu'il n'y a pas d'alternative humaine à l'idéal de l'âge de lumière, de la discussion ouverte, critique, ce que Karl Popper, le grand philosophe, a nommé la société ouverte. Ça, ou le fanatisme et la dictature.
Dernière question, Antoine Mercier.
Internaliser, dites-vous, notre culture, internaliser, c'est-à-dire la faire en prendre conscience que nous avons été, que nous avons une influence, que nous avons été influencés, et à partir de là, faire nos propres choix. C'est la démarche que vous proposiez.
Mais non seulement savoir ça, mais la connaître.
La connaître. Ouais. Donc quand même, ça signifie qu'il y a ce rapport à cette culture qui crée une communauté, à partir de laquelle seulement l'individu peut effectivement faire son choix. Ça redonne cette dimension collective.
Absolument, mais vous voyez, moi par exemple, je j'écris des années sur l'idée qu'il faut un curriculum, ça se dit comme
vitae,
ça,
oui.
Comment?
Non, ça dépend ce que vous voulez dire.
Européen, pan-européen, parce que je pense qu'il y a une tradition européenne. Je le sais parce que je l'enseigne constamment depuis beaucoup d'années, et parce que un des grands problèmes de l'Union européenne est exactement qu'elle est trop technocratique. Elle ne pense pas suffisamment à la grande question. Est-ce qu'il y a-t-il une base culturelle européenne sur laquelle nous pouvons baser cette réflexion? Je pense qu'elle existe, mais c'est pas qu'il faut accepter ce que je dis ex cathedra, mais c'est quelque chose qu'on peut discuter et on peut le développer.
La liberté comme discipline. Merci beaucoup à vous, Carlo Strenger. Allons-nous renoncer à la liberté? Une feuille de route pour affronter des temps incertains. C'est le titre de ce nouvel essai qui vient de paraître chez Bellefond. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. Grande table qui, chaque jour, quand elle se referme à l'antenne, se rouvre immédiatement sur franceculture.fr, où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, mais également nous écrire à la programmation préparation. Aujourd'hui, Claire Maillot et Iso Tsikar, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation aujourd'hui, Charlotte Roux avec Élise Leu. Très bel après-midi à tous et rendez-vous demain.